Bonjour et bienvenue sur les podcasts du Démanipulateur. Les podcasts du Démanipulateur sont l'illustration sonore de son auteur, Nathalie Risen, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques, et également créatrice et éditrice de projets destinés à dénoncer les cas de violence, de manipulation et de harcèlement dans le couple, la famille, le travail et l'éducation. La relation toxique est une relation de dominant à dominé, de sujet à objet, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité, dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. Nathalie tient à préciser que les victimes de relations toxiques restent majoritairement des femmes, compte tenu de l'historicité même du féminin dans notre société. Pourtant, de plus en plus d'hommes consultent aujourd'hui pour témoigner de leurs souffrances et mettre en lumière les violences subies. Les relations toxiques s'installent de manière insidieuse et se traduisent par des agressions quotidiennes et répétées. La relation toxique peut débuter par un reproche, une remarque, une phrase anodine en sous-jacent d'une tentative de manipulation, de dévalorisation, d'humiliation et de prise de pouvoir. Dans ce podcast, Nathalie aborde la douloureuse thématique du féminicide comme fléau mondial. Selon Femmes Actuelles, né de la contraction des mots « féminin » et « homicide », le terme « féminicide » s'est popularisé à la fin du XXe siècle par le biais de l'ouvrage de deux sociologues anglophones, Jill Radford et Diana E. H. Russell. Un terme dont nous aurions préféré qu'il ne voie jamais le jour. Certains sont optimistes en observant le nombre de femmes globales et se sécurisent en voyant un ratio peu élevé pour la population mondiale. Toutefois, ce nombre, qui peut paraître aussi moins imposant, demeure tout de même trop élevé. Dans ce cas, même un seul féminicide, c'est un féminicide de trop. Souvent pas suffisamment mis en avant, cet épisode traitera du fléau mondial des féminicides, des différents types et des approches pour parvenir à y mettre définitivement fin. Des statistiques effrayantes. Selon une étude mondiale réalisée par l'ONU en 2017, c'est 87 000 femmes qui ont été tuées intentionnellement à travers le monde. Plus de la moitié de ces femmes, 50 000 femmes plus exactement, ont été assassinées par leur partenaire ou un membre de leur famille. Ce qui signifie que chaque jour, 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille. 30 000 de ces femmes ont été assassinées par leur conjoint actuel ou un ancien conjoint. Des statistiques qui font définitivement froid dans le dos. Des données recueillies en 2012 recensaient 48 000 féminicides commis par un partenaire ou un membre de la famille. Il semblerait donc que les féminicides soient malheureusement et tragiquement en hausse. Situation mondiale. Toujours en référence à cette même étude, c'est en Asie qu'on retrouverait le plus grand nombre de femmes tuées par un partenaire ou un membre de la famille. On parle ici de 20 000 femmes. Pour le continent africain, c'est 19 000 femmes qui ont été assassinées par un partenaire ou un membre de la famille. En Amérique, c'est 8 000 femmes. En Europe, 3 000. En Océanie, 300. C'est donc l'Asie qui procède le plus haut risque pour les femmes de se faire tuer par un partenaire ou un membre de la famille, avec un ratio de 3,1 pour 100 000 femmes. En 2017, le risque était également élevé en Amérique. On le retrouvait un ratio de 1,6 pour 100 000 femmes. C'est l'Europe qui possède le risque le plus faible, avec un ratio de 0,7 pour 100 000 femmes. Si l'on regarde maintenant le taux par pays, c'est le Salvador qui possède le taux le plus élevé, avec 13,9 femmes tuées sur 100 000. On retrouve ensuite la Jamaïque, avec 11 femmes tuées pour 100 000. Dans une perspective globale, un homicide sur 5 est commis par un partenaire intime ou un membre de la famille. Et ce sont malheureusement les femmes qui constituent la grande majorité de ces décès. 64% des victimes contre 36% pour les hommes. Les types de féminicides. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime reconnaît un total de 11 types de féminicides. Un meurtre à la suite de violences conjugales, une torture ou un massacre misogyne, un assassinat au nom de l'honneur, un meurtre ciblé dans le contexte des conflits armés, un assassinat lié à la dot des femmes, une mise à mort des femmes et des filles en raison de leur orientation sexuelle, un assassinat systématique des femmes autochtones, un féticide et un infanticide, un décès à la suite de mutilations génitales, un meurtre après accusation de sorcellerie, et d'autres meurtres sexistes associés aux gangs, aux crimes organisés, au narcotrafic, ou encore à la traite des personnes et à la prolifération des armes légères. Les lois contre les féminicides. Plusieurs pays ont adopté des lois concernant les féminicides. Certains en l'ont même codifié comme crime. Voici quelques exemples de lois mises en place dans certains pays. Au Salvador et au Mexique. Adoption de réformes juridiques définissant le féminicide comme une infraction pénale et assurant le suivi de la prévention et des poursuites. En 2018, le Salvador a créé une nouvelle unité chargée de superviser les crimes liés aux femmes, aux filles et aux autres personnes vulnérables à la violence. Au cours des quatre premières années de 2019, les féminicides ont diminué de 30% au Salvador. 67 filles et femmes sont tout de même mortes au cours de ces quelques mois, simplement à cause de leur genre. Au Guatemala, adoption d'une législation en 2008 appelée « Loi contre le féminicide et autres formes de violence à l'égard des femmes ». Avec la collaboration d'ONU Femmes, le pays a formé près de 550 procureurs à la prise en charge des dossiers de féminicide au tribunal. Malgré cela, le pays a tout de même le troisième taux de féminicide le plus élevé au monde. En Afrique du Sud, le taux de féminicide du pays est quasiment 5 fois supérieur à la moyenne mondiale. En 2019, le pays a organisé un sommet de 2 jours contre la violence sexiste et le féminicide. Il a également défini un plan d'action pour mettre fin à ces pratiques brutales. Dans les pays européens, le Conseil européen a formé un pacte il y a 10 ans, appelé la Convention d'Istanbul. Il visait à prévenir et à combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Toutefois, les pays n'ont pas tous tenu leurs promesses. Bien que 474 femmes aient été tuées en Turquie en 2019, le gouvernement turc cherche à se retirer de la Convention. Au Canada, l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité a noté que les lois canadiennes portent d'autres noms que féminicide. Par exemple, violence familiale et violence domestique. Le gouvernement du Canada a lancé une enquête nationale sur la réalité des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Des réflexions pour réduire les féminicides. L'éducation, la formation et la sensibilisation. Plusieurs instances jouent des rôles cruciaux au sein de la société. Les professionnels de la santé, les policiers et les personnes faisant partie du système juridique. Pour les professionnels de la santé, la sensibilisation et la diffusion de formations plus approfondies permettraient de mieux représenter la violence conjugale ou autre type de violence, souvent signe avant-coureur du féminicide. Aux États-Unis, on relate que de nombreuses femmes ont eu recours à des services de santé l'année précédant leur assassinat. Cette mesure permettrait de prévenir les cas en amont. Dans la même optique, pour le corps policier, la sensibilisation et la diffusion de formations plus approfondies pourraient permettre également de mieux repérer la violence conjugale ou autre type de violence. Puisque ces derniers sont souvent appelés à intervenir lors de signalements, cela pourrait également contribuer à prévenir les féminicides en amont. Une formation adaptée permettrait aussi de documenter et de catégoriser adéquatement les cas pour ainsi repérer plus efficacement les signes et devancer les interventions. Au-delà de la formation de ces différents rôles, il faut traiter la cause de la douloureuse problématique. Il faut sensibiliser les jeunes garçons et les hommes aux répercussions de la violence faite aux femmes et aux solutions alternatives pour contrer la violence et gérer la colère et les émotions. Mais pas que, puisque sont aussi bien concernés parents, amis, voisins, passants, qui souvent se taisent ou plutôt se cachent sous de faux prétextes. Il faut proposer des solutions qui sont acceptables. Il faut éduquer notre société. Il faut remanier notre culture si elle porte entrave aux droits de la personne. Il faut changer et alléger le poids des victimes. Dans son ouvrage « 10 mamans, raconte-moi mon histoire, violence post-séparation et instrumentalisation de l'enfant », disponible sur payot.ch et amazon.fr, Nathalie nous explique comment elle se tient aux côtés des victimes de relations toxiques et de violences psychologiques, économiques, parentales, familiales, professionnelles, sexuelles, sociales et physiques, pour faire entendre leur détresse. Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez vous adresser au Centre de relations d'aide aux victimes de relations toxiques ou aller directement sur le site www.victimesrelationstoxiques.com.